se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC. La matinale week-end.
C'est l'heure du journal de Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. 6 personnes, dont 2 enfants, portées disparues dans le Gard après les pluies diluviennes d'hier. Les secours qui sont à leur recherche ont fait un point complet sur ce qu'il s'est passé dès le début de ce journal. Le chef du gang Yoda, l'un des deux principaux clans du narco-banditisme de Marseille, arrêté vendredi soir au Maroc. Et votre page sport avec le 15 de France qui joue gros face au Pays de Galles cet après-midi lors du tournoi destination. Et la Ligue 1, Marseille qui reçoit Clermont ce soir.
Et nous prenons tout de suite la direction du Gard puisque c'est l'information de ce début de matinée.
6 personnes portées disparues après les pluies diluviennes, les violentes intempéries d'hier. 6 personnes dont 2 enfants. Les secours qui sont à pied d'œuvre pour les retrouver, Clara Gabillet.
Oui, il y a 3 lieux où les recherches se concentrent. À Dionce, au nord de Nîmes, 2 enfants de 4 et 13 ans actuellement recherchés ainsi qu'un adulte, leur père. Après une alerte donnée hier soir, ils étaient à bord d'une voiture qui s'est engagée sur un pont submersible de la route départementale. La mère de 40 ans qui était dans la voiture a été secourue et prise en charge au CHU. 32 pompiers sont engagés, dont 20 sauveteurs aquatiques. Ce matin, près de Goudargues, 2 femmes de 47 et 50 ans ont appelé au secours sur une autre route départementale. Là aussi, avec le franchissement d'un pont submersible, 28 pompiers sont mobilisés pour les retrouver.
Et hier soir, déjà, Clara, un homme était porté disparu, cette fois dans le secteur de Gagnères.
Oui, un peu avant 20h, un 4x4 s'est engagé sur le pont submersible. 2 personnes se trouvaient à bord, le conducteur, un homme de 62 ans, et le passager, âgé de 42 ans, le passager qui a pu sortir du véhicule par le toit et se réfugier sur un arbre. Il a été pris en charge par les pompiers, transféré à l'hôpital. Le conducteur, lui, est toujours porté disparu. Il s'agirait de personnes belges qui avaient une maison secondaire dans le village.
Mais je le rappelle, dans le Gard, ce matin, ce sont 6 personnes qui sont portées disparues après les violentes intempéries d'hier. 6 personnes, dont 2 enfants. Prudence donc, un 10 départements dont le Gard qui sont ce matin en vigilance orange pour crue, mais aussi pour pluie, inondation. Vous retrouvez évidemment la liste complète sur rmc.fr.
Elle s'annonce historique, les grandes marées.
La façade ouest qui vit un événement exceptionnel en ce moment avec les grandes marées d'équinoxe, les plus puissantes de la saison. Vous êtes à Saint-Malo pour RMC, Nicolas Traîneau. Et Nicolas, ce matin, on peut le dire, le spectacle est sublime.
Exactement, des dizaines de personnes sont venues en profiter, ils se promènent sur la digue, sur le front de mer, là où je me trouve, et où la mer est montée, la marée haute était à 6h15, et puis elle redescend tout doucement, mais toujours très impressionnante. Il y a Alain qui est venu assister au spectacle, très joli, vous me disiez Alain.
Oui, bonjour, effectivement, je venais pour un spectacle grandiose, et puis... très haute, mais étonnamment calme aujourd'hui, et c'est un spectacle.
Et paisible, surtout vous me disiez, c'est vrai que c'est rare d'avoir des conditions météo pareilles pour ces grandes marées. Il n'y a pas de vent, donc la mer va monter doucement, très calmement sur les digues de Saint-Malo. Les plus forts coefficients sont attendus demain avec 116 sur 120.
Nicolas Traîneau en direct de Saint-Malo pour RMC à l'occasion de ces grandes marées exceptionnelles. Prudence donc si vous êtes sur la façade ouest du pays.
Il est 9h03, vous êtes sur RMC. C'est l'un des plus gros bonnets de la drogue, une figure du narcotrafic marseillais arrêté hier.
Il s'appelle Félix Bingui, il est surnommé le chat. C'est le chef présumé du gang Yoda à Marseille, l'un des deux principaux gangs de la cité phocéenne qui se livrent une guerre de territoire meurtrière. L'an dernier, ce sont 49 personnes qui ont été tuées. Alors cette arrestation de Félix Bingui est un symbole, Solène Gardré.
Placé sur la liste rouge d'Interpol, Félix Bingui s'était réfugié au Maroc depuis quelques mois, d'où il commandait Yoda, le gang de ce Français de 33 ans, originaire d'Alès. Une organisation relativement récente, puisque Yoda est connu depuis 2021. Avec DZ Mafia, c'est l'un des deux gros gangs de Marseille. Et tous deux se mènent une guerre des territoires, avec de nombreuses fusillades qui ont fait 49 morts l'année dernière. Mais même sans chef, il est peu probable que cette arrestation marque la fin de Yoda, explique le spécialiste du grand banditisme Jean-Michel Vert.
Stern.
Ça affaiblit Yoda, mais il est fort possible que quelqu'un prenne la suite, que le clan se restructure, encaisse le coup et continue. Il aurait fallu peut-être procéder à plusieurs arrestations en même temps. Donc là, on puisse dire que le clan est démantelé.
Pour lui, l'enjeu de cette arrestation est surtout symbolique.
Ça permet de communiquer. La situation est périlleuse à Marseille. Alors l'arrestation, ça met un peu de baume au cœur.
Félix Bengui sera lui extradé vers la France pour être jugé.
Et d'ores et déjà, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de cette arrestation. Il remercie les policiers français et marocains. Gérald Darmanin, qui, comme une grande partie du gouvernement, était à Lille hier à l'occasion du lancement de la campagne de la majorité présidentielle pour les élections européennes. Dans le viseur de la majorité, le Rassemblement National. Aujourd'hui, c'est Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui lance sa campagne avec pour tête de liste Marion Maréchal. Et toujours au chapitre politique, ce matin, un nouveau parti corse a vu le jour. Son nom, c'est Mossa Palatina. Il s'agit là d'un parti nationaliste identitaire, autonomiste, conservateur, avec, je cite, pour ennemi l'islamisme et le wokisme.
RMC, il est 9h05. Le rugby et le 15 de France qui doit tout donner cet après-midi face au Pays de Galles.
Un tournoi destination qui n'est pas une partie de plaisir pour les hommes de Fabien Galthié. Une seule victoire en trois journées. Quatrième match donc de la compétition tout à l'heure pour le 15 de France avec une urgence. Gagner à Cardiff. C'est là qu'on vous retrouve, Wilfried Templier. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Parce qu'en fait, c'est simple, Wilfried, en cas de nouvelle défaite de l'équipe de France, l'équipe de Fabien Galthié serait dernière au classement ce soir.
Et oui, la victoire de l'Italie hier face à l'Écosse place les Bleus devant leurs responsabilités. Soit ils s'imposent à Cardiff, comme ils l'ont fait en 2020 et 2022, soit ils se retrouveront tout simplement au fond du classement. Pour autant, depuis que Fabien Galthié est le sélectionneur de cette équipe, jamais ils n'ont perdu contre les Gallois. 5 victoires en 5 matchs, de quoi espérer aujourd'hui. D'autant que les retours sont nombreux dans leur rang, comme Aldrit, Flamand ou Marchand, ou les premières sélections des prometteurs de Porter et Barré, sans oublier le géant toulousain Emmanuel Méafou. Mais méfiance tout de même, hein, un match dans ce stade au toit fermé de Cardiff n'est jamais comme les autres. Ici, l'ambiance vous prend aux tripes, alors ce n'est plutôt pas le moment de se prendre les pieds dans le tapis à quelques jours de recevoir l'Angleterre qui, elle, a réussi l'exploit de battre l'Irlande hier.
Wilfried Templier en direct de Cardiff pour RMC. Vous nous ferez vivre en direct ce match cet après-midi. Coup d'envoi à 16h.
Du foot aujourd'hui avec cette 25e journée de Ligue 1.
Au lendemain de la défaite de son dauphin Brest face à Lens, le PSG reçoit Reims à 13h. En clôture, Marseille-Nantes, ce sera à 20h45. L'OM qui va mieux, on peut le dire, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc. 4 victoires en 4 matchs, en toute compétition confondue. Pour autant, pas question pour lui d'aborder cette rencontre face à Clermont avec trop de confiance.
Ce qu'il a redouté, c'est de passer de la confiance à l'euphorie. Il ne faut pas être euphorique. On est content, on est satisfait. Chaque match, on met la barre un peu plus haute. Là, maintenant, il faut maintenir. J'ai l'impression que tout le monde va aller au stade décontracté. On ne va pas décontracter. Ce n'est pas un match facile. C'est une équipe qui joue la vie. Donc ça sera tout sauf un match facile. Je préviens tout le monde.
Et puis ce dimanche marque le début de la saison de MotoGP. Rendez-vous sur le circuit de Lusail pour le Grand Prix du Qatar. Le départ qui sera donné à 18h.
Allez, à 9h07, c'est l'heure du petit-déj. Et avec sur la table en ce dimanche du café, du thé, mais aussi...
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat.
Ou plutôt des chocolatines, parce que la Coupe du Monde de la chocolatine se déroule ce week-end à Toulouse, évidemment. L'occasion de mettre en avant un métier essentiel à notre petit plaisir, gourmand du matin, les touriers, ce sont eux qui fabriquent les pâtes feuilletées. Métier mis à l'honneur, car aujourd'hui la moitié des boulangers achètent de la pâte feuilletée surgelée. Reportage dans un des laboratoires de la boulangerie Bohémie à Paris sur les coulisses de fabrication de vos viennoiseries préférées. Reportage Anna Jojard.
Que vous soyez plutôt...
Team croissant, ouais.
Ou bien...
Pain au chocolat quand même.
Si vous pouvez déguster vos viennoiseries préférées, c'est grâce à des professionnels de la pâte comme Benjamin.
Alors moi je suis tourier, on s'occupe de tout ce qui est pâte, tourage et tout ce qui va avec. Le matin on fait le tourage, donc on sort les pâtons, on incorpore le beurre dedans, ensuite l'équipe arrive et on roule tous ensemble les croissants, les pains au chocolat.
Une pâte préparée tous les jours pour être sûr de la fraîcheur de la viennoiserie parce que les clients, eux, ne s'y trompent pas.
Il ne faut pas que ça soit trop mou et il faut que ça soit assez gonflé et croustillant.
Mais alors quand même, comment éviter de tomber dans le piège d'une pâte congelée ?
Un croissant qui va avoir passé beaucoup de mois dans le congèle, ça va se voir visuellement, déjà par le feuilletage et aussi même l'aspect en fait. La viennoiserie va finir brûlée par le froid en fait.
Et puis en plus de la fraîcheur, il y a un ingrédient phare à ne surtout pas oublier.
Le beurre, le choix du beurre, il est très important. Aujourd'hui, juste pour les croissants, croissants, on va passer 134 kilos juste aujourd'hui.
134 kilos de beurre pour plusieurs centaines de croissants, et bien voilà, c'est la clé pour une bonne viennoiserie.
Bon et petit voilà. Déjà
et
tout.
Oui, c'est bien gourmand en tout cas, avec beaucoup de beurre.
Et tout à l'heure, à Cagnes-sur-Mer, 15h15, départ du Quintet.
Et voici les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le 5, Vivid Wise As. Leur outsider, c'est l'As, Vernissage Griffe. Le 5 et l'As. Les courses à la radio sur RMC, à la télé, RMC Découverte, Canal 24.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Stéphane. Bonjour Jean-Christophe Drouet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous voulez un pain au chocolat ou une chocolatine, vous?
Un pain au chocolat, voyons.
Ah, voilà.
Quelle
voilà.
Question.
Quelqu'un de bien.
Ah oui, mais attendez. Parce que,
alors, je suis plus croissant, mais on s'en moque.
Ah.
C'est pas le débat.
Oui, non.
Non, c'est pas le débat.
Et vous en avez d'autres, des débats, vous, tout à l'heure, à partir de 9h30.
Oh, quel rebond, c'est fou. Hein,
incroyable.
Il arrive comme ça à enchaîner, c'est un
bon
vrai métier. Hein.
Sport, GG, hop, et.
Je sais pas ça. À partir de 9h30, les grandes gueules du sport autour de Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Fred Weiss, Marc Madio. Nous allons tout d'abord parler de Pays de Galles, France. Le 15 de France est-il redevenu une équipe ordinaire? Ce sera notre question. Et puis à 11h, ne manquez pas ce débat sur Jean-Louis Gasset. A-t-il un avenir à l'OM? Les GG ne sont pas d'accord. Et beaucoup d'autres débats, évidemment, à partir de 9h30.
À tout à l'heure dans 20 minutes maintenant.
Mais c'est Perico qui arrive.
Et oui, bonjour Perico, le beurre et l'argent du beurre. Ah, vous allez nous mettre en boîte ce matin.
Ah bah écoutez, j'allais le faire. Eh bah écoutez, puisque c'est comme ça, je reste dans mon bocal. On va parler de la conserve.
Très bien, bah parlons des boîtes de conserve avec vous dans 2 minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Bonjour Perico Légas.
Bonjour Mathieu.
L'éducation au bien manger tous les samedis, tous les dimanches avec vous. Hier, on a beaucoup parlé de cette étude qui nous a accompagnés toute cette semaine sur les habitudes alimentaires des Français et des jeunes en particulier. Et on découvrait donc que chez un tiers des Français, 31%, on fait usage régulièrement des conserves, les boîtes de conserves. C'est vrai qu'on en a toujours une qui traîne au fond du placard le dimanche soir en rentre tard. Il y a la boîte de raviolis, les haricots verts aussi. Et hop, c'est parti.
Et je pensais, comme je vous l'ai dit hier, qu'il y avait moins de gens qui faisaient appel à la conserve dans l'acte alimentaire. C'est vrai qu'on en voit partout. Je me suis donc dit, les gens, les Français et les Françaises en consomment. Mais là, c'est 31%, c'est net. Et puis, ils le font en conscience. Voilà. Et effectivement, ils ont raison. Puisque la conserve, qui aujourd'hui, elle passe pour un garde. Pourquoi? Parce qu'on a des technologies de conservation alimentaire tellement, j'allais dire, plus sophistiquées. Congélation, surgélation, le sous-vide. Vous avez une forme de packaging aujourd'hui quand vous êtes dans les rayons de grande surface de plats préparés. Bon, et il y a quand même toujours le rayon conserve avec nos...
Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est plus petit qu'avant, ce rayon.
Plus petit. Et là, donc, du coup, je suis allé revérifier dans plusieurs grandes surfaces. Elle tient une bonne place et je suis surtout ravi de sa diversité de l'offre. Voilà. Parce que malgré tout, ça reste un mode de consommation, j'allais dire, un mode alimentaire de conservation, c'est de la conserve, qui est très efficace quand il est bien mis en place et quand il est bien utilisé.
Et dans ces rayons, on voit de plus en plus de la bonne qualité, de la meilleure qualité de conserve.
Alors, pour que la conserve s'en sorte et garde son statut et la reconnaissance du consommateur, il fallait qu'elle fasse un petit effort par rapport à une époque où la conserve c'était souvent du bas de gamme. Il y a encore de la conserve bas de gamme. Mais les producteurs, les transformateurs ont eu, alors d'abord vous avez un nombre de plats cuisinés qui se portent bien en conserve, je ne sais plus pourquoi, et puis l'offre a été diversifiée et les légumes, vous vous souvenez, je ne sais plus si c'était d'aussi ou casse-grain, on voyait un lapin, là les petits pois étaient cueillis le matin à l'arrosée et on sait de toutes les manières que la qualité d'une conserve, c'est le temps restreint qu'il y aura entre la cueillette, donc le prélèvement du produit, et sa transformation. C'est ça qui fait la qualité d'une conserve ou la qualité du produit elle-même.
Bonjour Anaïs Castagna.
Bonjour Mathieu, bonjour Perico.
Regardons les chiffres. Même si les rayons sont de plus en plus petits, est-ce que les Français consomment de plus en plus de conserves, au moins autant?
Alors, ce qui est sûr, c'est que les ventes de légumes en conserve se sont envolées durant la crise sanitaire. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Bien sûr.
Plus 28% durant le premier confinement. Ah, pour une raison simple, acheter des conserves, ça permettait de faire des réserves, d'espacer les courses.
Du stock.
Exactement. Après cette période exceptionnelle, on est revenu à un niveau un petit peu plus normal, mais les ventes de boîtes ne se sont pas effondrées. Elles ont même progressé en valeur avec l'inflation, plus 7% en 2022. Et si la conserve résiste, c'est avant tout parce que les Français pensent que c'est bien pratique. Une boîte de petits pois, ça dépanne toujours et au moins ça ne va pas se perdre. 31% des Français utilisent la conserve dans leur alimentation.
Est-ce que je peux vous faire un aveu, Mathieu et Anaïs?
Bien sûr.
Je suis en train de terminer le stock de conserve que j'ai stocké en 2020. Hein. Ah. Il y a eu un moment de crise vers le 20 mars où on nous a dit, bah, vous savez, les magasins à cause des livraisons.
Vous êtes rué sur les boîtes de petits pois.
Je vous imagine, oui, comme un fou à les dévaliser.
Alors, mes copains se foutaient un peu de moi quand ils arrivaient. Je montrais les armoires avec les pyramides de boîtes de conserve. Et là, les enfants me disent, papa, est-ce qu'on aura bientôt fini de... Alors, ce sont des boîtes de conserve, mais voilà, à un moment donné. Donc, oui, alors, et certaines sont un petit peu au-delà de la date, elles sont encore meilleures.
Bon, ouais. Alors, parlons de ça justement, parce qu'il y a conserve et conserve, il y a les bonnes conserves, mais il y a ce qui est en conserve qui est meilleur que si on l'achetait frais. Les sardines, par exemple.
Alors, voilà. Alors, d'abord, parlons de la conserve, c'est quoi? C'est l'apertisation. Nicolas Appert, pâtissier, qui est né en 1745, mais qui meurt en 1830, en 1795, trouve, parce qu'on faisait déjà un peu de la conserve artisanale chez soi, il comprend que si on fait de l'apertisation, si on fait bouillir un aliment dans un vase clos, eh bien, il va être aseptisé, le terme n'existait pas encore, il va être pasteurisé, et donc sa capacité de conservation, pourvu que ça soit bien hermétique, eh bien, sa capacité de conservation est infinie. Et quelque part, il a sauvé des vies humaines, parce que cette méthode de conservation a permis de garder dans toute la saison et sur le temps des aliments qui étaient essentiels à la nutrition des êtres humains. Et on peut imaginer, voyez la notion du mijotage, je fais cuire tout doucement, très longtemps, dans ma cocotte, dans mon chaudron, un plat mijoté, que ce soit des lentilles, que ce soit un cassoulet, et je l'enferme. Et j'allais dire l'action de la cuisson, une fois que c'est fermé, c'est produit à une interaction sensorielle et biologique entre les produits. Et ça continue, j'allais dire, ça continue à se faire. Et quand on ouvre une vieille boîte de conserve où le cassoulet est resté tranquillement dans l'armoire pendant 1, 2 ou 3 ans, eh bien quelque chose s'est créé. Même si c'est pasteurisé, aseptisé, il n'y a pas de vie bactérienne à l'intérieur. Quelque chose s'est formé d'un peu métaphysique. Et lorsqu'on ouvre une boîte de conserve avec des bons produits, un cassoulet qui a été fait avec des bons haricots, du bon cochon ou de la bonne oie, cuisiné dans un atelier, même si c'est une usine proprement fait, eh ben vous avez un cassoulet merveilleux. Idem pour une boîte de petits pois avec des carottes, on va peut-être citer des marques, que ce soit d'aussi 15 grains. Et voilà, donc vous avez un produit.
Et la sardine aussi, alors.
J'en viens.
Encore mieux.
Alors l'apertisation, la mise en conserve, a révélé la capacité qui vous donne une autre dimension à ces trois poissons essentiels qui sont le thon à l'huile ou même le thon naturel, les poissons bleus, la sardine, l'anchois
et le
maquereau vin blanc. Et là, ces poissons qui n'auraient pas connu ce destin sans l'apertisation trouvent une nouvelle vie.
Sublimé.
Une troisième dimension, ils sont sublimés par ce mode de conservation. Et c'est quand c'est bien fait, c'est un véritable régal. Hein. C'est de la haute gastronomie. Alors, en plus, les boîtes de conserve de sardines, vous savez, les fans les gardent longtemps dans une valise, on les retourne pendant 2 ou 3 ans. Et ce que je vous ai dit pour le cassoulet, elles ont mariné dans leur jus et dans leur conserve et elles sont absolument sublimes.
Alors, on va en venir à deux questions essentielles. Comment bien les cuisiner et est-ce qu'on peut les faire soi-même?
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
Comment bien cuisiner ces boîtes de conserve? Tiens, Romain nous rejoint au 32-16 depuis la Charente-Maritime. Bonjour Romain.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour Anaïs, bonjour Perico.
Bonjour.
Père de 2 enfants, Romain, vous achetez beaucoup de boîtes de conserve?
Bah oui, oui, j'en achète. Bah, j'achète du frais, du surgelé et conserve.
Parce que pratique, pas cher, ça dépanne le dimanche soir?
Bah oui, puis voilà, j'ai un enfant qui a un trouble alimentaire, donc moi je dois faire 2 repas en fait.
D'accord, donc ça fait beaucoup de boulot, la conserve c'est plus rapide. Est-ce que, comme on dit souvent dans le beurre et l'argent du beurre, vous la pimpez un peu votre boîte de conserve?
Oui, puis après c'est un peu compliqué de passer derrière Perico puisqu'il a un peu tout dit. J'allais vous dire, quand vous faites un thon ou salade... défiez-moi de dire que vous n'ouvrez pas une boîte de conserve de thon.
Ah bah oui, bah bien sûr.
Donc, oui, après il y a juste question de peaufiner. C'est mettons acheter une boîte d'haricots verts, rien ne nous empêche de mettre un morceau d'échalote, un morceau d'ail pour relever.
Vous avez tout
pareil
compris.
Pour les raviolis ou quenelle. Moi, j'ajoute de la crème fraîche parce que je pense que la tomate, elle est un peu difficile à être digérée vu qu'elle est bien compo. C'est beaucoup de concentré, et ben ça radoucit.
Mais après, on n'y pense pas bon assez souvent, en fait, à rajouter sa petite touche personnelle à la boîte de conserve.
On prend le contenu brut et puis on le prend tel qu'il nous arrive. Mais non.
Il est un peu fade.
Voilà. Donc il a été conservé. Vous imaginez enfermé comme le devin d'Aladin dans sa boîte, comme ça tout d'un coup il sort. Et qu'est-ce qu'on va lui redonner? On va lui redonner un petit, ce que j'appelle un coup de vécu. Voilà. Il était dans le passé, on le ramène dans le présent et on introduit dans son système, dans son montage, un petit élément gustatif, sensoriel, pof, qui va remettre la machine en route. route. Et le plat va retrouver sa vie telle qu'il était au moment où il a été cuisiné.
Vous disiez même, Père Eco, que vous étiez capable de transformer une boîte de conserve de rien du tout en plat 3 étoiles Michelin.
J'y vais tout de suite.
Oui, allez-y.
Alors, je fais allusion, on peut citer la marque, mais c'est bon aussi pour Dossi et Casse-Grain. La petite boîte, la boîte de conserve petit pois carotte. Alors d'abord, une consigne.
Avec un goût que je déteste. Donc,
alors justement, je vais vous poser une question. Vous gardez l'eau, n'est-ce pas, des conserves, Anaïs?
Non, moi je mets tout, goûte.
Oui. Pardon. Et je rince, ouvre et on vide dans les pieds.
Et je rince.
C'est une plaisanterie, j'espère.
Non, mais
c'est des criminels.
Non, mais je me dis que ça a mariné dans de l'eau, là, comme ça, donc je rince.
Ce jus devait être sanctuarisé. C'est le jus d'une cuisson qui est restée dans son contenant pendant des mois ou des années avec cette impression. Ça a infusé. C'est un trésor.
Qu'est-ce que vous en faites, vous?
Mais je le garde tout de suite. D'abord, je vais vous dire, je me demande si je ne prends pas la conserve pour le jus de cuisson et puis je mets le contenu de côté. Vous allez faire un potage, un bouillon avec. Mmh. Vous le réutilisez, surtout l'eau de petit pois carotte, elle est un petit peu sucrée. Juste comme ça, en consommer. Avec un peu de sel, un peu de poivre, une noix de beurre, un peu de crème fraîche, ou alors vous rajoutez dedans d'autres légumes, ou vous en faites une sauce, mais enfin, en tout cas, vous avez un potage. Et alors, donc, vous prenez votre petite boîte de... votre grosse boîte, si vous êtes plusieurs, petit pois carotte avec son jus, vous la mettez dans un contenant, un récipient, vous savez, avec le mixeur, de façon à faire une petite crème. Une noix de beurre, une jolie cuillerée de crème fraîche, et vous avez un consommé, vous avez un potage aux légumes, le meilleur du monde. Je mets au défi Alain Ducasse.
Et je vous entends réagir, Robin.
Moi, je suis pas fan, en tout cas. Moi, j'aurais préféré, là, par contre, pour ça, pour un genre de potager, j'aurais préféré le surgeler. Ah. Parce que si on commence à faire cuire, je trouve que ça fait une forme quand même assez pâteux et filandreux.
Eh ben, vous ferez la comparaison. Je pense que vous allez le faire. La boîte de conserve. Je dis bien petit pois carotte, hein. Il faut qu'il y en ait deux. De chez Casse-Grain. La qualité de son jus. Et vous la passez au mixeur. Vous en faites un petit potage aux légumes. C'est un ravissement absolu. Donc, 2,60 € ou 30 selon on le trouve. Une minute de travail et on a du 3 étoiles Michelin dans l'assiette pour pas grand chose.
Très vite, juste dernière question, Romain.
Juste pour dire, c'est très utile aussi pour les étudiants qui ont très peu de moyens.
Vous faites bien de le signaler.
Kilo, une boîte de tout, c'est pas.
Voilà, mais vous avez des cassoulets, des petits salés aux lentilles formidables. Regardez, souvent c'est marqué, c'est artisanal, c'est fin. Vous avez des grandes firmes. Et quand c'est fait artisanalement par des petites sociétés en région, vous avez souvent un très bon plat cuisiné, classique, traditionnel, avec une recette régionale.
Juste, donc dernière question très vite, pour la faire soi-même. Attention, là, il y a des règles à respecter.
Alors,
quand même.
Il y a déjà du matériel.
Le botulisme, on en a parlé dans l'actualité.
Voilà, il y a du matériel aujourd'hui qui est vendu dans le commerce, des appertiseurs, des cuiseurs. On le fait systématiquement avec la confiture. C'est de la conserve. Ça, c'est fait traditionnellement.
Il faut bien laver ses fruits et légumes. Oui. Il faut bien vider ses volailles.
Tout à fait. C'est la cuisson, surtout l'appertisation. Quand on a beaucoup de tomates, les gens qui ont des potagers avec des tomates, ils font des stocks pour l'hiver avec de la sauce tomate. Il faut que ce soit bien cuit, bien clos, bien hermétique.
Bien au-delà de 100 degrés.
Bien au-delà de 100 degrés, un certain temps. Et là, si les conditions de l'appertisation ont été respectées, de la pasteurisation, appertisation, là, vous avez un produit qui est sans danger. En général, quand il y a un souci, il vous le dit au moment d'ouverture. Il y a une petite odeur ou un petit gonflement. Mais on peut le faire chez soi à condition de très, très rigoureux et très strict sur les normes d'élaboration.
Merci beaucoup, Perico Légas. Merci Romain de nous avoir rejoint ce matin au 32-16.
Merci à vous et Perico, continuez à ne pas vous laisser faire par Estelle.
Ah ben d'accord, ben écoutez, justement voilà.
Et ça va être dès demain.
Ça va être difficile, hein, parce qu'elle a quand même de l'autorité. Merci.
On vous retrouve demain, lundi, Estelle midi, Perico.
Voilà, on va décrypter l'actualité qui est toujours très riche sur RMC.
Midi 15h, et on reconnaît bien avec Romain les auditeurs fidèles d'RMC.
C'est clair, le beurre et l'argent du beurre. Votre rendez-vous à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
A tout de suite dans deux minutes.
RMC,
la matinale week-end.